Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Seb's Thé et Lounge au 67 boulevard René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Eh bien oui, le grain de sable, ça peut faire rire le grain de sable. On a avec nous en studio Yves Carrier et Christian Loupret. En fait, Yves représente le CAPMO. Pour les non-initiés, c'est le Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert.
Bonjour.
Bonjour Yves. Et Christian Loupret qui travaille à l'ADDSQM, l'Association de défense des droits sociaux du Québec Métro, sur l'importance des organismes communautaires dans la qualité de vie des Québécois. C'est un lieu d'inclusion, de participation et de débat démocratique sur les enjeux de société. Donc, vous pourrez commenter avec Mme Monique Jamard le résultat des élections, Christian Loupret.
OK, merci.
Oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, Monique Jamard, on va reprendre où on s'en était laissé la semaine dernière, où on parlait du mode de scrutin, des possibilités de changement de mode de scrutin. Et évidemment, le résultat des élections peut avoir un impact sur les élections prévues en 2019.
Oui, bonjour. Je pense que ce qu'il faut, c'est revenir sur le résultat de ces élections-ci. On peut en tirer plusieurs conclusions. C'est sûr que ça montrait un besoin de changement. Il y a eu du changement, définitivement. Maintenant, si on le regarde du point de vue de ce qui était l'intervention de la semaine de samedi dernier, est-ce que ce gouvernement-là est plus démocratique que l'était celle que M. Harper? Il n'est pas plus démocratique. Les gens ont voté. Les citoyens ont voté pour d'autres personnes, mais le gouvernement qui en sort ne sera pas un gouvernement plus démocratique. Je voudrais juste peut-être rappeler deux, trois résultats. Ensuite, je donnerai deux, trois grands perdants des élections et qui ne sont pas ceux qu'on pense. Les libéraux ont obtenu un gouvernement majoritaire avec 184 sièges pour 39,4% des voix. C'était exactement le même pourcentage qu'avait eu M. Harper en 2011. Le Parti conservateur a 99 sièges avec 31,9%. Le NPD, 44 sièges avec 19,7% des voix. Le Bloc québécois, 10 députés. Il a monté, mais pour un pourcentage moins élevé. Le Parti vert reste toujours avec un seul siège pour 3,4%. On avait parlé la semaine dernière d'un système électoral qui devrait corriger les distorsions que donne notre système. Alors, très curieusement, ce que je voudrais souligner, c'est que quand on regarde à partir d'un autre, mettons, si on regardait ces résultats-là avec un système de proportionnel, surprenamment, le grand perdant, eh bien, c'est pas ni le NPD ni le Parti conservateur. Le grand perdant, c'est le Parti vert. 93,9% des gens qui ont voté pour les Verts n'ont élu personne. Leur vote est, mettons, inutilisé.
C'est 600 000 voteurs comme ça.
Comment?
C'est 600 000 voteurs que leur vote a pris le bord.
93,9%. Combien ça donne en chiffres, là, j'ai pas regardé les chiffres, j'ai juste vu en pourcentage. Mais ça veut dire que, dans une proportionnelle, ils auraient eu 12 députés au lieu d'un.
Oui.
Deuxième perdant, le Bloc. On pense qu'il a gagné, mais il a plus de députés qu'il n'avait, mais dans une proportionnelle, il aurait eu 16 députés. Je pourrais regarder aussi le NPD, qui aura obtenu 67 députés au lieu de ceux qu'il a obtenus. Mais, par contre, il faudrait voir qu'on n'aurait pas eu un gouvernement majoritaire libéral. On aurait eu un gouvernement libéral minoritaire.
Ben oui, dans le Devoir de mercredi dernier, le 21 octobre, un article de Carl Rettino-Paradiselli, la proportionnelle aurait privé Trudeau de la majorité.
C'est exactement ça que je vous dis. Les chiffres que j'ai pris de Fair Canada montrent que le gouvernement, si les élections étaient démocratiques, les libéraux auraient dû être élus, mais avec un gouvernement minoritaire.
C'est une bonne affaire, ça, des fois, pour les mouvements sociaux, non?
C'est une bonne affaire parce que ça amènerait au pouvoir toutes les tendances, les idées, les opinions de ceux qui ont voté ici, Vert, ou NPD, ou Bloc, mais qui ne sont pas représentés. Alors, ce que je voudrais juste apporter une conclusion. Chacun des partis qui ont été élus, sauf le Parti conservateur, s'était engagé à faire des changements.
Un changement de mode de scrutin, on s'entend.
De mode de scrutin. Et tous avaient promis qu'avant les prochaines élections de 2019, ils changeraient le système. Moi, je pense que une fois encore, notre système a montré sa distorsion, puis a montré qu'il n'était pas démocratique. Justin Trudeau, le Parti libéral, s'est engagé à former un comité multipartite, à étudier la question et surtout à présenter un projet de loi avant, je pense que c'est
18 mois.
18 premiers mois.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, premier mois.
On a hâte de connaître le nom du ministre le 4 novembre prochain qui sera responsable de la réforme électorale.
Hein? La conclusion de ça, pour moi, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il ne faut pas s'arrêter qu'on a changé quelque chose. Oui, on a changé quelque chose. C'est certainement, on a délogé un peu, on a délogé les conservateurs, on a changé des choses. Mais on n'a pas changé ce qui est ce qui fait les distorsions, la racine, dis donc, qui fait que notre système n'est pas démocratique. Je pense que ça, il va falloir ne pas faire confiance 100% aux libéraux. Il va falloir les suivre. Il faut que les citoyens ramènent à leurs députés tous. N'oubliez pas que vous avez promis ça.
Ah, mais c'est ça. Donc ici, nous, dans Beauport-Limoilou, c'est un député conservateur qui a été élu. C'est pas lui qui va aller porter le flambeau à Ottawa, mais dans le comté de Weber, où je demeure, c'est Joël Lightbaum. Je l'ai entendu sur les ondes d'une autre radio nationale, que pour lui, c'était sa priorité, un jeune avocat de 27 ans.
Écoutez, on sait qu'au Québec, il y a eu plusieurs comités là-dessus, avec des rapports. Quand vient le temps de voter, ceux qui sont élus... Parce qu'ils voient que ça ne leur aurait pas donné la même chose, ne le votent pas. C'est ça qu'il faut. Il faut être conscient que ce ne sera pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se présente. C'est pas la première fois qu'il y a des promesses qui sont faites. Ce qu'il faut maintenant, c'est militer ou travailler pour que le Parti libéral vraiment respecte sa province. C'est ça que je voulais dire. Malheureusement, moi, je suis dans un comté NPD. En fait, je suis dans le comté de Thomas Mulcair. Je suis très content qu'il
Il est pour, lui, puis il veut rester en plus, donc c'est un bon porte-parole pour surveiller, justement, comme deuxième opposition, monsieur
Il était honnête,
libéral.
Lui aussi avait promis, s'était engagé, donc...
Oui.
Mais ce qu'il faut, c'est... Il faut pousser sur les libéraux. Il faut aussi pousser sur les autres partis, c'est sûr, parce qu'ils vont tous le voter.
Et selon certains calculs, le Bloc aurait eu la balance du pouvoir si on était en système...
Le Bloc, il aurait eu, j'ai pas fait le calcul de ce point de vue-là, mais il aurait eu 16 députés. Mais surtout, ce que ça lui aurait donné, c'est le statut de reconnaissance.
Oui, ça en prend au moins 12, puis ça veut dire des budgets de millions de dollars à dépenser, à chercher, faire des recherches.
Surtout un droit de parole.
Ah ben oui. Et à faire partie des comités parlementaires. Comme là, s'il y a un comité parlementaire qui parle de réforme électorale, le Bloc pourra même pas siéger, ni Elisabeth May, qui est la chantre de ce système.
Oui.
Alors, il y a une pétition qui veut qu'elle devienne ministre de l'Environnement. J'y crois pas vraiment. Y croyez-vous un petit peu?
Non. Moi non plus, j'y crois pas parce que, bon, les libéraux ont, bon, pour différentes raisons, puis je pense que les libéraux ont des gens à proposer aussi, puis je pense pas que le changement irait jusque-là. Mettons, élire quelqu'un dans le gouvernement qui aurait un autre parti, là, vraiment, ça serait plus que du changement. Faudrait plus que ça. Ça devrait normalement arriver comme ça.
Oui.
Mais je doute fort que ça aille jusque-là.
Mais juste avant de vous quitter, Mme Jamar, j'aimerais, je vois Christian Loupret dans nos studios qui est très impliqué dans les organismes communautaires de la région. Est-ce que cette élection a des impacts sur vous, M. Christian Loupret, et vos groupements? Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité, comme Mme Jamar en parle si bien, d'avoir un changement de de scrutin, de système électoral.
Juste pour revenir sur Élisabeth May.
Il faudrait s'avancer un petit peu du micro, M. Loupré.
Comme Madame dit, si Justin Trudeau serait cohérent, il voudrait tout de suite mettre en avance qu'est-ce qu'il veut faire comme temps proportionnel,
ben, ça serait déjà un début s'il mettrait Mme Élisabeth May comme ministre de l'Environnement. Le lendemain des élections sur le soleil, parce qu'on était supposé avoir à Québec un mini-budget, et on a vu que les hausses des taxes puis la baisse des impôts provinciales, le mini-budget s'est annulé. Donc, il y a déjà une mesure répressive qui vient de tomber suite au gouvernement Trudeau à Québec. Au Québec.
Donc, il y a un impact. On va reparler après cette chanson de Richard Séguin. Merci beaucoup, Mme Jamar, de nous avoir éclairé. Avez-vous un dernier message, un dernier espoir pour nous avant de partir?
Le dernier espoir, moi, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas penser. Oui, on a changé quelque chose, c'est sûr. On a débarqué à Harper, je pense que tout le monde est d'accord avec ça.
Oui.
Mais on n'a pas changé le fond du système qui fait qu'élection après élection, on a un système qui produit des distorsions et qui produit des gouvernements, entre guillemets, non démocratiques.
Oui, ça c'est sûr.
C'est mon dernier message.
Et vous nous en avez bien parlé. Merci beaucoup. Et okay. En espérant qu'on s'en reparle, mais une fois que la commission sera lancée...
Moi, je pense qu'on devrait suivre un peu ça.
Oui.
Je vous propose de qu'on suive ça puis qu'on fasse un petit rappel où est-ce que ça en est, qu'il y a un comité qui a été formé, qui est dedans. Moi, je pense que ce que je veux, c'est qu'on fasse le suivi de ça, qu'on laisse pas là. C'est fini, c'est terminé, l'élection est faite.
On espère
que dans 4 ans, ça aura changé. Non. Ça changera si on travaille pour que ça change.
Eh bien, on prend l'engagement commun, Madame Monique Jamar de TAC Québec. Merci. Et nous, si ça marche pas, ben, on va mettre le grain de sable dans l'engrenage encore plus.
OK. Merci. Bonne fin d'émission.
Une grande réserve en haut des États. Le Parlement s'énerve pour l'arrivée du président. Ils sont tous invités, les ministres, les pantins, les souffleurs, les pots de vin, les grosses gammes anonymes. Discours caméléon, la censure en prime. Échange librement des promesses d'élection. On a les puits assis de face pour l'insipide arsenal. Made in USA. Le président s'avance, il est fier de rappeler qu'on fait tous partie d'une belle société. Armée pour la paix, le cash va rentrer et l'histoire ne fait que recommencer. Comme dans tous les westerns, la cavalerie se garde punch pour la fin. Pendant ce temps-là, il y a ceux qui n'ont ce cri, ceux qui n'ont pas les mots pour se défendre. Pendant les discours et les feux d'artifice, il y a tous ceux qui se demandent si un jour ça va changer. Arrête sur l'autoroute, prendre un autre café. On annonce l'arrivée d'un autre président. On annonce l'arrivée d'un autre président. On annonce l'arrivée d'un autre président. You got money.
Ben oui, un autre président, un autre premier ministre, c'est du pareil au même de toute façon. Bienvenue, monsieur Justin Trudeau, dans notre monde. Et là, je pense qu'on est bien équipé pour parler des conséquences de ces élections-là, mais de d'autres sujets aussi. Nous avons toujours avec nous en studio Yves Carrier de Capmo et Christian Loupret de l'ADDSQM. Rebienvenue avec nous.
Bonjour.
Merci.
Bon, enfin, oui, on a perdu notre bonhomme carnaval de tantôt. Merci, Christian, d'avoir changé pour le micro rouge.
OK.
Alors,
une autre conséquence du sous-financement du communautaire.
D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, d'ailleurs, on sera avec vous aussi en deuxième demi-heure après avoir écouté Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui nous parlera aussi des conséquences de ces élections. Mais d'abord, est-ce qu'il y a vraiment un impact? Ben là, c'est sûr que dans Limoilou, on a un député conservateur. Avant, on avait un député socialiste, néo-démocrate Raymond Côté, ainsi qu'à Québec. Là, on aura un député libéral, peut-être même ministre dans le comté de Québec. Alors, un petit peu de rouge et bleu à Québec, on n'a plus d'orange. Est-ce que ça peut avoir un impact sur vos groupes sociaux ici à Québec, du financement ou pas?
Ben, nous, on est membre du REPAC d'abord, et je dirais la plupart des, comme faire des analogies, pour moi le communautaire c'est un peu comme l'huile dans le moteur, ça amène la fluidité qui permet à la société de mieux fonctionner, d'adoucir les irritants, et des fois les structures bureaucratiques peuvent devenir inhumaines, hein, parce que c'est loin de nous. Mais au Québec, dans le fond, ce qui se passe à l'interne, ce qui est santé, sociale et éducation, c'est le gouvernement provincial qui s'occupe de ça. Donc, les députés fédéraux, on a peu à faire avec eux. Eux, c'est beaucoup les questions
internationales.
Oui, il y a le logement, c'est vrai.
Mais on a tellement, oublié le logement que c'est normal de l'oublier.
C'est vrai. Hein.
Parce que ça, jadis, les HLM, c'était le fédéral qui finançait ça.
Tu vois, je sais.
Mais oui, mais il y a des combats qui ont été faits dans le temps de Christian Simard, justement, dans ces belles années où il ne s'occupait pas d'environnement, mais de logement.
Oui, OK.
Ben, il se battait, puis c'était au fédéral qui demandait l'argent. Mais on a tellement oublié, ça a tellement que. Mais ça va peut-être revenir avec les libéraux.
Pour moi, le fédéral, c'est le port, c'est le pont qui n'est pas peinturé, c'est la dévie qui n'a pas de contrat tangible. Mais je vais laisser la parole à Christian.
Ben oui, puis Christian, vous, c'est quoi le fédéral? Ça a-tu un impact sur vos organismes du coin?
Disons que ça respire mieux. Depuis l'élection, parce que quand même, pour avoir le droit à du financement, même si le financement vient du Québec, là, je vous dirais d'où ce qui vient, faut avoir un numéro de charité. Le numéro de charité vient d'Ottawa. Avec les conservateurs, tu fais de la défense de droit, tu critiques ce qu'ils font, tu te mets. Ouais. C'est tellement sûr des fois.
Donc, là, puis le fameux projet de loi là, qui mettait des organismes surveillés et qui les mettait dans la même catégorie que certains organismes terroristes, ça vous touchait ça? Je sais qu'André Bellil, ça a justifié son implication comme candidat du Parti vert dans le comté de Blainey, mais vous, ça vous touche moins, c'est surtout les groupes écolos.
C'est parce que la loi n'a pas été vraiment appliquée, en fait. Ouais. Hein. Ils ont passé la loi C-51, c'est ça?
Ouais, le projet de loi.
Mais on ne l'a pas vu aboutir sur nos tables, là. On n'a pas vu l'impact. J'espère qu'elle va être amoindrie.
N'étant pas là, ça tombe au feuilleton. Ça meurt au feuilleton.
Elle n'a pas été votée.
Ben, même si ça l'est, les libéraux ont d'autres objectifs.
Oui, c'est ça. C'est que les conservateurs avaient un peu une mentalité paranoïaque, on va dire. Je pense que ça, cette attitude-là, on va en être libérés. Puis c'est surtout, nous, donc, de ne pas se faire enlever le numéro de charité, c'est sûr. Ça nous amène à faire de l'autocensure. Moi, sciemment, je parle jamais d'Israël, parce que dès que tu dis le mot Israël, il arrive chez vous.
Oups, hein,
c'est surveillé.
Il y a un taxi qui arrive. Ouais.
Donc, on n'en parle pas. Puis c'est fort dommage, mais c'était à cause de cette attitude-là qui était très... Il y a des grands organismes qui ont été coupés de Solidarité internationale, Alternative, Kairos, le Centre Broadband, Droit démocratie. Statistique Canada, ça, pour nous, avec le collectif Pour un Québec sans pauvreté, les données de Statistique Canada, c'est le tableau de bord qu'un gouvernement doit avoir devant lui pour savoir quels sont les indices, qu'est-ce qui se passe dans son pays, la démographie, la jeunesse, l'éducation, le travail, l'emploi, le chômage, sa vie du touriste ou sa vie de l'industrie minière ou sa vie de... C'est des données essentielles à un gouvernement pour être capable de d'harmoniser tout ça puis d'être capable de répartir la richesse à travers le Canada. Parce que là, on voit que les provinces maritimes se vident au profit de l'Ouest canadien. Donc, si on n'a pas d'indicateurs, puis là, les conservateurs, ils ont dit on enlève Statistique Canada, le recensement obligatoire, bien ça a été... ça a fini par avoir un impact sur nous parce que le gouvernement devient comme autiste à la réalité. Puis là, il peut s'adonner à des grandes théories néolibérales, mais il réfléchit en silo. Hein? Il veut pas voir ce qui se passe sur la planète Terre.
Le vendredi de la semaine dernière, j'étais à la nuit des sans-abri qui se déroulait à Place de l'Université du Québec. D'ailleurs, en souhaitant que le siège social reste... Parce que sinon, le parc va changer de nom, j'imagine, vrai, si le siège social de l'Université du Québec est plus à côté de l'ENAP, là, pour ceux qui connaissent les Jardins Saint-Roch. Ouais. Il y avait une belle activité. Je suis allé avec ma conjointe prendre une bonne soupe. Et d'ailleurs, j'invite présentement, vous pouvez avoir une soupe gratuite à l'Église Saint-Roch, sur le parvis de l'Église Saint-Roch, organisée par les Amis de la Terre et d'autres groupes sociaux de la région. On y sert une soupe gratuite faite avec des légumes moches. Alors ce matin, il y a des gens depuis 10 heures qui se sont affairés à couper des légumes moches, des légumes qui sont normalement rejetés. Eh bien, les Amis de la Terre, on essaie de faire renaître ces légumes-là en soupe et elle est servie à l'heure actuelle au parvis d'église jusqu'à 3 heures cet après-midi. Alors, si vous avez trop tard, de toute façon, vous nous aiderez à défaire les tentes. Mais Christian Loupré, qu'est-ce que vous en pensez de ces conséquences électorales?
Ben, conséquences électorales, je veux dire, je vois quand même ça comme un bienfait, le gouvernement libéral à Ottawa. Dans tout, je voulais dire, le financement, parce que le communautaire va tomber en grève les 2 et 3 novembre. Justement, le 3 novembre, il va y avoir une soupe populaire aussi dans la place de l'Université du Québec, à côté des Jardins Saint-Roch. Ça va être une zone de grève collective à partir de 14 heures. Puis, je sais pas si la soupe va être faite avec des légumes moches, mais... probablement aussi.
Répétez-nous les dates et le lieu de rencontre.
Mardi 3 novembre.
La communautaire va être en grève le 2 novembre et le 3 novembre. Vous pouvez aller voir sur le site communautaireengrève.com.
Communautaireengrève.com.
Donc, tout
et sur sur le réseau Forum aussi, hein, Michael Lessard.
Le réseau du Forum social.
Le réseau social, c'est très bien. On y voit vos activités. Et d'ailleurs, c'est une grosse semaine en vue là, cette semaine. Il y a des grèves aussi dans les écoles. Les mouvements sociaux sont de la partie ainsi qu'écologistes. Parce que les Amis de la Terre, je sais que nos employés, je salue Estelle, Sandrine et Ariane, seront en grève les 2 et 3 novembre.
Je voulais ajouter un complément d'information. Après la soupe, on va s'être réchauffé. À 18h, il y a une manifestation où on invite la population qui aime le communautaire à se joindre à nous. On va faire une manifestation. Donc, les gens de Chaudière-Appalaches vont venir nous rejoindre. Les gens de toute la grande ville de Québec, de Portneuf, Charlevoix, vont se joindre à nous. Donc, tous ceux qui viennent dans nos organismes, qui sont des militants ou des bénévoles, qui viennent se joindre à nous, ou même le public en général, qui est conscient qu'on est la douillette, finalement, pour passer l'hiver au Québec d'une façon humaine, digne et confortable.
Avec une bonne soupe chaude.
Oui. Faut dire aussi, certains groupes s'attendent, d'autres groupes 9 ans, que notre argent vient de 5% du bénéfice net des casinos de Loto-Québec. Puis, secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales.
Le saquet,
justement. Ça fait... certains groupes 9 ans, d'autres groupes 7 ans, je parle pas qu'on n'a pas été augmenté, c'est qu'on n'a même pas été indexé. Donc, tout a continué. Donc, les groupes commencent à avoir de la difficulté.
C'est l'austérité, en fait.
Parce que des coussins, ils commencent à plus en rester. Donc, il va falloir comme passer, mettons, tomber une partie de l'année en chômage. Donc, ça marche comme plus, là.
Mais donc, est-ce que le fédéral, puisqu'on est un peu aussi dans on a de l'espoir, là, de non seulement de changer le mode de scrutin qui ferait des gouvernements minoritaires qui seraient peut-être plus intéressants pour tous les groupes sociaux à travers le Québec, le pays?
Le fédéral, il mettait de l'argent dans les groupes de femmes, dans l'alphabétisation des adultes, dans les groupes environnementaux, puis dans les groupes de solidarité internationale. Mm-hmm. C'est pas nous autres, là, mais ça ferait plaisir quand même si eux autres avaient ce qu'il faut pour manger, parce que c'est des emplois aussi qui ont été coupés. À Québec, combien d'organismes de solidarité internationale qui ont disparu, et il en reste peut-être la moitié de ce qu'il y avait dans les années 80. Puis ça fait une métropole québécoise qui est assez repliée sur elle-même, mais ignorante des réalités internationales. On se sent de plus en plus on est loin, tu sais, nous autres, après nous, le déluge, là, à Québec. Donc, faut cultiver, faut éduquer le public, hein. Ça fait partie des mandats des organismes de solidarité internationale, d'éduquer le public à penser plus loin que ce qu'ils voient devant eux, quoi.
Oui. Et donc, en deuxième demi-heure, nous allons parler encore plus en détail, parce que le Québec, semble-t-il, ça, c'est de vous la source, détient le record mondial en termes de nombre d'organismes, alors que souvent, ailleurs, ce sont des églises qui jouent ce rôle. Et votre ailleurs, moi, je pensais que c'était le reste du Canada, dans l'Ouest, parce qu'effectivement, c'est comme ça. Mais non, il y a des exemples en Amérique latine, et dans beaucoup de pays dans le monde, c'est la religion. Quand on parle de la Croix-Rouge, il y a le Croissant Rouge aussi. Donc, effectivement, on va parler de la spécificité du Québec par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Après cette pause, quand même, on aura Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui de l'Assemblée générale d'Alternative va nous parler quelles sont les conséquences de ces élections fédérales pour les grands enjeux qu'Attaque Québec met de l'avant. Dans la capitale.
Quelque part dans l'est de Montréal, bien à l'abri dans un local bancal, le yob en personne buvait un pot en compagnie de ses suppôts. Tour à tour, chacun de ses complices déposait leur rapport sur l'état du vice. La machine du mal baignait dans l'huile, contrôle total de la grande ville. Et puis sa majesté pourpre prit la parole. On a le monopole de sur la métropole. Mais n'arrêtons pas là nos ambitions, mes amis. L'heure est à l'expansion. Étendons bien grand les ailes du mal. Prochain objectif, la capitale. Demain, je fly à l'autre bout de la ville pour y faire un peu de travail de terrain.
Luciferine, exportation du mal. Siège social situé à Montréal. Luciferine, exportation du mal. Siège social situé à Montréal.
Luciferine, exportation du mal.
Cheval sur son B666, s'arrêtant en face du bar chez Boris. Mais comme sa face t'as pas connu d'en place, il a dû faire la file comme n'importe quelle tâche. Au bout d'une heure, enfin à l'intérieur, il sortit sa ligne à pêche au futur pêcheur, distribuant son lot de cartes d'affaires à quiconque avait l'air le moindrement pervers.
Lucifer Inc, propagation du mal, siège social situé à Montréal. Propagation du mal, siège social situé à Montréal.
Luciferine, propagation du mal.
Mais à Québec, c'est dit, sache le protocole. Faut jamais mentionner qu'on vient de la métropole. Sinon, ça risque fort de te revenir dindin. Le yob allait l'apprendre lui-même à ses dépens.
Tu prends un petit fraîchier de Montréal qui va venir chez nous nous montrer comment faire le mal.
Le yob avait beau faire sonner ses écus, le doorman l'a sorti à grand coup de pied dans le cul. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Son vol plané s'est terminé dans un poteau. Le choc a fait germer une idée dans son cerveau. Il lui suffisait de trouver un homme respecté dont il pourrait usurper l'identité. Il eut un flash génial, la victime idéale ne pouvait être nul autre que le bonhomme carnaval. Qui donc pourrait se méfier d'un personnage aussi jovial, l'homme au bedon monumental?
Luciferine, incarnation du mal, siège social situé à Montréal.
Luciferine, incarnation du mal.
Luciferine, incarnation du mal, siège social situé à Montréal.
We'll be right back.
de pot de vin, des grosses légumes. Ça lui ouvrit le chemin qui menait au fameux costume. En enfilant le suit de l'homme de glace, il entendit son propre rire résonner dans le casse. Et comme pour Wolf, la conquête fut facile. Il a reçu des mains du maire les clés de la ville. Tour à tour, les remparts se sont effondrés. Les portes se sont ouvertes et le Yarm est entré. Au Parlement, on lui déroule le tapis. Honnête, genre de dormir plus tranquille. Les loups sont entrés dans la base ville. Hey,
honest people, better watch your back. Downtown's been taken by a wolf pack.
Fais attention, belle jeunesse. Ils sont à la recherche de nouvelles duchesses. Fais attention, belle jeunesse. Ils sont à la recherche de nouvelles duchesses. Fais attention, belle jeunesse. Ils sont à la recherche de nouvelles duchesses.
Lucifer et tes plantations du mal. Siège social situé à Montréal.
Lucifer et implantation du mal.
Lucifer et implantation du mal. Siège social situé à Montréal.
Lucifer et implantation du mal.
Succursale dans la capitale.
Nouvelle succursale dans la capitale.
Nouvelle succursale dans la capitale.
CKRL.
Québec.
À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à l'information alternative et l'actualité locale.
On refait la une vendredi 9h avec Dominique Lelièvre, Le Grain de Sable, samedi 13h avec l'équipe d'Attaque Québec, section Capitale Nationale, Le 8e Continent, jeudi 9h avec Jean Cloutier, et Futur Simple, jeudi 17h30 avec Valérie Levé, François Grégoire et leurs coéquipiers.
Rebienvenue au Grain de Sable en compagnie de Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec, président de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, qui avait signé un très bon billet au nom du conseil d'administration dans ce bulletin spécial fait juste avant les élections fédérales. Une sorte d'analyse avait été faite de chacun des programmes politiques, tout ça sans savoir qui allait gagner. Et je pense que dans notre fort intérieur, on ne pensait pas qu'on allait se retrouver avec un gouvernement libéral majoritaire à ce moment-là, n'est-ce pas, Claude Vaillancourt?
Non, c'était vraiment pas dans le portrait à ce moment-là, mais vraiment pas. Enfin, il va falloir faire avec, comme on dit.
Alors, le choix a été fait. Le Parti libéral, est-ce qu'il y a des conséquences là, pour les enjeux d'Attaque Québec qui sont souvent reliés au libre-échange, aux paradis fiscaux, à la taxe sur les transactions financières, à l'environnement?
Ben, je dirais, première chose, là, c'est un grand ouf, là, quand même. On est sorti du règne des conservateurs, avec lesquels c'était parfaitement impossible de dialoguer là sur n'importe quel de nos sujets. C'était une fin de recevoir de tout ce qu'on disait. Alors, c'était extrêmement frustrant de faire affaire avec ce gouvernement-là parce que vraiment, la porte était carrément fermée. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence avec le Parti libéral? Malheureusement, il va y avoir beaucoup de différences, je dirais, dans la forme. Ils vont être plus gentils, ils vont être plus accueillants, ils vont nous écouter. Mais pour ce qui est du fond, malheureusement, des orientations politiques, je ne pense pas que ça soit un grand changement. Dans la campagne électorale, on a joué sur une espèce de vernis de gauche, hein, mais quand on gratte un petit peu là, ce qu'il y a derrière ça, ben on se rend compte que c'est quand même le bon vieux Parti libéral. Puis on a l'impression avec ces élections-là de revenir sur la case de départ, là, comme c'était dans le bon vieux temps de Jean Chrétien. Et je pense pas que la personnalité de Justin Trudeau change beaucoup de ces données-là.
Alors, ben, écoute, donc, il va y avoir des impacts certains, mais concrètement, là, est-ce que eux, sur la taxe des transactions financières, quelle est leur...
Oui, la taxe des transactions financières, ça, c'est intéressant, parce que je pense qu'on peut avoir une vraie écoute là-dessus. Le Parti conservateur, il était particulièrement fermé sur cette question-là. Il y a très longtemps, à la fin des années 1990, le Parti libéral avait adopté une résolution en faveur, une résolution de principe en faveur. Donc, finalement, ils sont pas contre. Alors, pour eux, ça peut être intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement défendre à l'échelle internationale. Ça, c'est un dossier qui pourrait avancer, j'ai l'impression, avec ce gouvernement-là. Moi, je pense qu'il va avoir une certaine écoute, je dirais, oui.
Et pour le dossier de l'environnement, qu'est-ce que vous en pensez finalement?
Pour le dossier de l'environnement, ben, je pense qu'ils ont été très habiles à cacher finalement leur prise de position, donc on ne sait pas trop. Moi, je suis pas très optimiste finalement. Je pense qu'ils vont continuer, il va falloir faire des pressions très très fortes. Peut-être la différence avec les conservateurs, c'est qu'ils vont être plus sensibles s'il y a une opposition vraiment forte et organisée. Hein? Alors, on sait à quel point les conservateurs, pour eux, l'opposition, c'était pas un problème. Pour les libéraux, qui cherchent quand même à protéger leur image, qui cherchent quand même aussi à être plus rassembleurs d'une certaine manière. Alors, je pense qu'ils peuvent être plus attentifs à un mouvement d'opposition, mais je dirais un mouvement d'opposition massif. Si ça reste tranquille, mais moi, je pense qu'ils vont y aller dans ce sens-là, dans le sens de bâtir cet oléoduc-là que Trudeau, d'ailleurs, a pas dénoncé à aucune occasion. Là. Donc,
surtout qu'un de ses conseillers, Dan Gagné, personne très influente chez les libéraux provinciaux aussi, ici, a fait une gaffe quelques jours avant le vote, mais
oui,
le vote par anticipation était déjà fait. Ça a pas eu vraiment un impact.
Oui, ben ça montre cette gaffe-là, à mon avis, elle est très significative. Hein, faut pas la retourner. Ça montre que le Parti libéral reste ouais. un parti très infiltré par les lobbyistes,
ben, hein, oui.
Et beaucoup plus que, je pense, le NPD. Évidemment, les autres partis, on n'en parle pas là. Donc, et ça a montré ça là. Hein, le bon vieux Parti libéral, là, il est pas loin derrière. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il va falloir être très très méfiant et le suivre de très près ce gouvernement-là.
Surtout qu'ils ont ressorti M. Chrétien pendant la campagne.
Oui.
Mais on s'en ennuyait un petit peu, hein, malgré tout ce que je pensais pour lui, de lui. Là. Ils l'ont remis dans la fosse au lion, mais il nous a sorti des phrases incroyables. C'est toujours drôle de l'entendre, finalement. On a l'impression d'entendre des fois mon arrière-grand-père parler là avec sa réflexion à Saint-Saëns, mais... Vous avez, Claude Vaillancourt, vous êtes l'auteur quand même de l'Empire du libre-échange.
Oui.
C'est un domaine dont on vous connaît comme conférencier, auteur prolifique. Vous avez certainement analysé le programme du Parti libéral pour voir si qu'est-ce qu'ils vont faire avec le TRAFTA, avec le transatlantique, transpacifique, puis tout ce qu'on peut s'imaginer de libre-échange, comme dirait Jacques Bégina, ouais. Un de nos chroniqueurs, de hyper-collection politique, là. Hyper-collusion ouais. politique, pardon.
Tout à fait. Ben, le Parti libéral, sa tactique qui était quand même très efficace, ça a été de pas se prononcer, tout simplement. C'est-à-dire, on va attendre de voir les textes dont on sait que la sortie, en tout cas pour le partenariat transpacifique, la sortie est imminente. Les textes de l'accord de Canada et l'Union européenne sont sortis depuis longtemps. On sait très bien aussi dans quel sens vont ces accords. Là, pas nécessaire d'avoir la totalité des textes. C'est sûr que la totalité des textes, ça va nous permettre d'en voir le plus les détails. Mais quand même, j'ai l'impression que l'absence de position est en fait une position en faveur qui est camouflée. Donc, c'est vraiment ça. Et si on regarde l'historique des libéraux, ben il est très significatif à ce niveau-là. C'est un parti libre-échangiste. C'est un parti qui défendait à plein, qui a défendu la ZLEA, d'une certaine manière, pendant assez longtemps. Ça, c'est la zone de libre-échange des Amériques.
Oui.
C'est un parti aussi qui était très présent à l'OMC, qui était tout à fait favorable des négociations dans le cadre de l'OMC.
Et à l'AMI aussi, je pense que
oui,
Chrétien du temps.
Oui, aussi. Oui. Enfin, ça, c'est l'opposition, elle est venue plus de l'extérieur. Mais aussi, ce qui est important à dire, c'est que le Parti libéral a même approuvé des ententes de libre-échange avec le Panama et le Honduras, alors qu'on sait que le Panama, bon, c'est un pays, un paradis fiscal lié au narcotrafic. Le Honduras a été victime d'un coup d'État. Donc, ta question humanitaire a été soulevée et malgré ça, le Parti libéral a quand même approuvé ces accords de libre-échange. Alors ça montre à quel point c'est un parti qui croit finalement à ce qui est encore dans cette logique là moi j'ai l'impression que qui ils vont continuer là-dedans. Et il faut penser aussi à Jean Chrétien. Jean Chrétien, qui, quand il avait été élu, son premier mandat, il avait fait une campagne contre, et là c'était très clair, là, contre l'ALENA, contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Une fois qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement changé de direction et il a défendu cet accord-là corps et âme.
Puis il n'y a pas une histoire de TPS aussi dans son cas? Là, que...
Oui, il y avait la TPS.
Il a déchiré sa chemise qui était contre la TPS et finalement, on l'a encore, notre TPS. Puis pendant les 10 ans de pouvoir qu'il a été là, elle n'a pas diminuer non plus, je pense.
Non, non. Tout à fait, c'est les conservateurs qui l'ont fait diminuer un peu, là. Et le gouvernement québécois est allé rechercher ces points-là. Donc, pour nous, ça fait pas de différence.
Au moins, il n'a pas été en Irak.
Ouais.
Faut y donner ça.
Oui. Mais tout ça pour dire que le gouvernement libéral, j'ai tout à fait l'impression qu'il va continuer à ce niveau-là les mêmes politiques que le gouvernement conservateur.
Ouais, et pour les groupes sociaux, parce qu'on a en studio avec nous, vous avez entendu Christian Louprêt réagir à vos propos, et Yves Carrier, qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti libéral qui pourrait aider les groupes sociaux? Est-ce quelque chose par rapport au logement?
Je suis pas tellement spécialiste de ça. Je pense que vos invités vous pourront en parler beaucoup mieux que moi. Mais ce que je veux dire là-dedans, au moins ça semble quelque chose qui est très positif. Hein. On a quand même on est quand même confiance que le Parti libéral rebâtissent quelques ponts qui ont été détruits. Le Parti libéral est quand même un parti un peu plus sensible à la question démocratique, au dialogue démocratique que pouvaient l'être les conservateurs. Les conservateurs, on le dit tout à l'heure, hein, quand une orientation d'une ONG ne leur plaisait pas, ben ils coupaient. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que ça se reproduise. Et au sein du milieu des ONG, je pense qu'il y a une certaine confiance qu'il va avoir à nouveau une forme de réinvestissement et que ça soit pas autant idéologique que chez les conservateurs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez positif aussi du résultat des dernières élections.
La fin d'un dogme.
Oui. Mais par contre, ce qui est un peu inquiétant dans le Parti libéral, c'est quand on regarde les candidatures, quand on regarde les individus ministrables, hein, alors ouais, ouais. On a fait une campagne qui est carrément au centre, je dirais même centre-gauche, mais les individus qui sont là, c'est des bons vieux libéraux, là, c'est des gens soit de l'ancien régime, comme Dion, comme Ralph Goodale, ou vous avez dans la région de Québec une recrue, Jean-Yves Duclos, professeur d'économie, mais qui est associé à Cyrano, qui est associé à l'Institut Howe, qui sont quand même extrêmement conservateurs. Donc, je pense pas que la députation libérale est une députation qui va créer un changement d'orientation politique, je dirais, au sein de ce parti-là.
Bon, j'ai un petit peu confiance en Pablo Rodriguez, que j'ai connu dans une autre vie où il était du Club des deux tiers. Donc, avec une certaine sensibilité du tiers-monde et qui était impliqué dans des groupes environnementaux, qui a déjà été député. Et là, semble-t-il qu'il est très proche de
Petit Pet. Oui, c'est peut-être une bonne influence pour lui. Mais ça c'est, je pense, c'est quelque chose que les libéraux vont rétablir. Parce que la réputation du Canada dans le domaine de la diplomatie, c'est un pays quand même qui avait une réputation tout à fait enviable, je pense qu'on peut dire à juste titre.
Les Boy Scouts, on était les Boy Scouts, les casques bleus et tout ça, là.
Voilà, exactement.
On a espoir que ça change, mais en termes de libre-échange, c'est à peu près la même cassette, finalement.
Ben, en termes de libre-échange, oui, tout à fait. Ben, eux, c'est qu'ils sont dans l'orthodoxie économique, hein, et c'est exactement ce que le libre-échange, finalement. Le libre-échange, c'est quelque chose qui peut bien se vendre au niveau d'une population, parce que évidemment c'est la liberté des échanges, puis on promet des emplois, puis on promet une meilleure économie, même si dans la réalité c'est pas vraiment ça qui se passe, même si c'est pas vraiment d'études là-dessus, même si ce qu'on sait, on se rend compte au contraire plutôt que ça crée davantage d'inégalités. Mais enfin, ça peut être rentable politiquement, c'est ça le problème, ça peut être rentable politiquement de jouer là-dessus. Et c'est pour ça, encore une fois, je parlais d'opposition très claire dans le domaine de l'environnement, mais il va aussi falloir une opposition plus nette et plus organisée dans le domaine du libre-échange. Et je pense que le Parti libéral peut quand même réagir un petit peu mieux là-dessus que les conservateurs.
D'accord. C'est l'Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec à Montréal le 7 novembre prochain. On invite tous les gens d'à travers le Québec. Cyrande, vous avez même un invité de marque, un des porte-parole d'Attaque France.
Oui.
Quels seront les principaux enjeux discutés, si vous pouvez en parler? Je sais que ça appartient à vos membres, j'imagine, et ceux qui veulent s'exprimer doivent rentrer membres avant l'Assemblée générale. Mais quels sont les principaux enjeux qu'on pourra y discuter à...
Oui, bien, il y a deux choses. C'est sûr qu'en Assemblée générale, on va réfléchir sur ce qu'on a fait dans l'année passée et ce qu'on veut faire dans l'avenir. Donc, c'est vraiment une orientation. On va discuter des orientations de notre organisation. Il y a des gens qui ont des choses à proposer, des idées à lancer, c'est comme ça. Donc, c'est une espèce de dialogue qui est très intéressant, qui est toujours enrichissant avec nos membres. Et on va voir aussi, comme vous dites, la participation de Maxime Combe. Maxime Combe, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un économiste qui est spécialiste des questions environnementales et qui est très impliqué dans l'organisation du contre-sommet, la conférence sur le climat à Paris, qui est très au courant de ce qui se passe aussi, qui a rédigé aussi un petit guide très intéressant, ça s'appelle le petit guide de l'Anthropocène, donc qui résume très bien les enjeux climatiques actuellement. Donc, Maxime va vraiment nous faire le lien, va nous parler de ce qui s'en vient finalement de cette conférence à Paris. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très, très bien informé là de cette question-là.
Très bien. Donc, on espère justement que notre émission Grain de Sable puisse se transporter à Paris. On est encore en négociation avec Radio France Internationale pour produire les émissions du 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre à Paris, dans les studios de Radio France Internationale, où on aura la chance de rencontrer les gens d'Attaque France.
Oui, ce serait très intéressant. Et je vais y être, moi aussi, d'ailleurs.
Oui, bon, donc, vous serez certainement pour la première fois en studio, mais à partir de Paris, donc on travaille là-dessus.
Oui, oui, en tout cas, ça risque d'être très intéressant.
Juste en terminant, vous étiez à la soirée relation qui a eu lieu à Montréal le 22 octobre dernier?
Non, j'y étais pas.
Avec Yves-Marie Abraham, Joël Deschambault, Éric Martin.
Oui, j'y étais pas.
Mais il y a monsieur Yves Carrier, lui, qui était à celle de Québec, où on avait Dominique Bernier, militante écologiste et altermondialiste et associé effectivement à Attaque Québec, François L'Italien, sociologue, Jean-Claude Ravet, et je demanderais à Yves Carrier, qui était là, de ses impressions de la performance de Dominique et de François L'Italien et Jean-Claude Ravet.
Ben, moi, j'aime toujours les soirées de nation pour la profondeur de la réflexion qui nous est apportée. Dans ce cas-ci, bien évidemment, le néolibéralisme et même le capitalisme croient à la croissance absolue dans un monde infini, alors que c'est faux. La planète est c'est un monde fini. Donc, on peut pas croître matériellement, du moins spirituellement, culturellement, avec des artistes. Oui, on peut croître au niveau de du bien-être des gens, peut-être des meilleurs logements, une qualité de vie, des transports en commun. Il y a beaucoup de voies, mais c'est des voies qui nous ramènent, qui nous sortent de notre individualisme, de notre éclatement, pour nous ramener vers la communauté, vers le communautaire ultimement. C'est en se mettant ensemble qu'on va économiser de l'énergie. C'est pas en vivant chacun comme des îlots, même si Jean-Paul Sartre croyait que l'enfer c'est les autres. J'aime bien la réponse de Camus. Nul n'est une île.
Et donc, Christian Louprey, vous nous avez parlé de cette grève communautaire qui aura lieu les 2 et 3 novembre. Mais est-ce qu'Attaque Québec est impliqué avec certains groupes sur les manifestations qui s'en viennent ou les grèves contre l'austérité?
Je ne sais pas.
Est-ce que Claude Vaillancourt, vous êtes là?
Oui, oui, je suis là. Mais en fait, oui, c'est sûr que nous, on encourage nos membres à y participer, mais c'est sûr que nous, on n'est pas une organisation qui a une capacité de mobilisation qui est très, très forte. On est plus dans les idées, on est plus dans... on a une formation, par exemple, qui porte sur l'austérité. Donc, c'est plus à ce niveau-là là, qu'on travaille, nous. Parce qu'on n'a pas, évidemment, par rapport à un syndicat qui a des immenses capacités de mobilisation qui sont aussi quand même touchées beaucoup plus directement par les négociations.
Bien, merci beaucoup, Claude Vaillancourt, d'avoir été avec nous.
Mais ça m'a fait plaisir.
Et on espère être présent à votre Assemblée générale pour pouvoir contribuer à faire connaître les enjeux que vous allez mettre en priorité lors de cette Assemblée avec vos membres.
Oui, bien, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
vieillissent, mais les autres, on est toujours en vie. On n'est plus la saveur du mois, puis c'est vrai qu'on a pris du poids depuis qu'on joue des soupes et spaghettis. Est-ce que tu veux engager notre orchestre? On est prêt à faire toutes les bassesses. Quand tu payes, puis la bière est gratuite, ben nous autres, on va te chanter nos vieux et on est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. On est des has-been. C'est vrai qu'on est des vieux fous, mais on va te faire des bons shows. Y'a rien qui ira plus que les autres, les festivals. Pop d'oxygène à l'entraque. Et pendant qu'on joue tout nos temps, on fait semblant qu'on a du fun. Et c'est qu'on ferait pas pour le spectacle. Et si on bouge plus à être des groupies, c'est pas parce qu'on en a pas envie. C'est juste que les jolies demoiselles, ben faut dire, ça se bouscule plus devant notre hôtel. On est des has-been. On est des has-been.
Et les Cowboys fringants, les has-beens, je sais pas pourquoi j'ai mis cette chanson-là. Quand j'ai entendu qu'on parlait de Jean Chrétien et de tout.
Ah, les conservateurs. Ces bons
vieux souvenirs conservateurs, les has-beens. Ouais. Alors, on salue les Cowboys fringants qui nous ont servi.
Moi, j'aurais une opinion sur les 100 ou les 99 bleus à Ottawa. Moi, je pense qu'ils vont se désintégrer, se désagréger parce qu'ils ont pas de contenu.
Ah ben écoute, peut-être qu'on a un chef qui permettra ça. Les noms qui circulent, c'est Diane Finley. Monsieur Jean Charest a dit que non. Il doit sentir la soupe chaude par là-bas, là. Mais essentiellement, je pense qu'on est parti, on est passé ailleurs. Avec les libéraux, on va voir qu'est-ce que ça donne dans ce pays-là. Mais là, on est donc avec Christian Loupré. On vient d'entendre Yves Carrier du Capmo. Et Christian Loupré, vous êtes très, très, très impliqué dans les organismes communautaires de Québec Métro.
Ben, surtout,
ça représente beaucoup, hein. On sous-estime le nombre, premièrement, d'organismes communautaires qu'on a et le nombre d'emplois que ça implique.
Ça implique environ 150 000 emplois au Québec.
45 000, 46 000 organismes.
Au Québec.
Ouais, au Québec. Ça fait partie de l'économie sociale. Puis dans l'économie sociale, comme Jean-Marc, quand Martin Haussan dit, on oublie souvent le mot économie là-dedans, mais c'est quand même 40 milliards à quelque part. Là.
Donc, ça fait vivre du monde. Puis ça amène une qualité de vie là, pour parce que les structures froides du fonctionnariat ou de l'État en austérité, c'est plus évident, c'est pire parce qu'ils échappent du monde, puis sciemment, ils font exprès pour en laisser tomber. Les coupures à l'assurance chômage aussi, ça pousse le monde vers la pauvreté. Puis ici, il y a eu des coupures aussi à l'aide sociale, ou en tout cas des tracasseries administratives qui rendent l'admissibilité de plus en plus difficile, puis qui rend que les gens qui sont à l'aide sociale, ben, ils vont avoir peur d'en sortir parce qu'ils savent que c'est quasiment impossible d'y revenir après. Donc, ça crée tout un... L'État, dans les grandes structures, ils sont pas proches de l'être humain, mettons, pour dire ça de même. Là. Que nous, on travaille avec du monde. On parle à du monde, on les reconnaît, ils ont des noms. Pour moi, c'est pas des clients, c'est des personnes qui sont devant moi, des militants, des bénévoles. Souvent, on est un lieu de regroupement d'associations. C'est des gens qui vont vivre d'isolement, de la solitude. Puis donc, on est aussi un endroit où ils vont se référer pour avoir un sentiment d'appartenance. Tu sais, quand t'as pas de job, d'avoir une place où ce que parce que t'es retraité ou whatever, t'es entre deux travails ou t'en as pas. Ben c'est important de t'as le droit à une place dans la société. Puis nous, on fait de la place à tout le monde. Aux immigrants aussi.
Oui, ouais, ben à l'ADS aussi, on fait pas juste de la défense de loi. Là. On se trouve à être un milieu de vie. Puis Je reviendrai avec à peu près dans le même sens que vos autres invités qui, en défense de droit, un droit, à un moment donné, on l'a, mais si on le défend pas puis qu'on le revendique pas, il n'y a personne qui va venir nous porter. C'est peut-être la même chose qui arrive avec les promesses politiques pour la proportionnelle, la marijuana, une meilleure diplomatie du Canada, que le Canada ne vise plus à être un État guerrier. Il va falloir les pousser, nos politiciens, pour qu'ils aillent vers ça aussi, parce que ça se fera pas tout seul, ça, non plus.
Donc, de relire leur programme, puis leur mettre dans le nez, quand on rencontre notre député là au souper spaghetti du sol d'église, disait, écoutez, à page 32, allez-vous le faire?
T'es rendu où là-dedans?
Ouais.
Parce que, en droit, on vit ça beaucoup. Je travaille beaucoup avec la loi sur l'aide aux personnes, aux familles. Puis pourtant, j'ai la loi, j'ai le règlement. Mais sacrifice, des fois, faut qu'on se rende jusqu'au tribunal pour le faire appliquer. C'est aussi plate que ça.
Et donnez-nous un exemple concret là, de choses que vous avez faites qui a vraiment eu un impact sur des personnes. Sans nommer leur nom, mais
ouais,
les gens que vous avez cheminé avec, les gens qui vous fréquentent, qui vont, comme au Cap-Mont, je suis déjà allé à votre salle où on peut cuisiner, faire des choses. Il y a des gens qui rentrent là en cherchant l'espoir et vous réussissez?
Ben oui, tout simplement parce que c'est une fois par mois depuis 40 ans, donc c'est pas toujours le même monde, mais il y en a qui viennent 2 fois par année, 10 fois par année, mais ils savent qu'ils vont venir là, qu'ils vont rencontrer des amis, parce qu'on a, avec un repas fraternel, tout le monde est égal, que tu sois un universitaire ou quelqu'un qui est sans emploi, on regarde pas ça, puis tout le monde a le droit à la parole, puis quand on partage sur un sujet, puis il est reconnu dans son expertise de vécu. Aussi, pas juste dans l'expertise d'avoir lu tant de centaines de livres ou d'articles, mais vraiment l'expérience humaine vécue. Puis, il y a une opportunité de militance en s'impliquant dans les comités, en s'impliquant au CA. Moi, j'ai vu des gens grandir, beaucoup se développer. C'est une espèce d'université populaire où ce que le monde apprenne en faisant des choses sur le terrain. Puis les gens se développent. Le marché du travail rejette des milliers de personnes parce qu'ils sont pas assez vite, pas assez ci, pas assez ça, trop gros,
alors qu'ils ont
trop
plein de potentiel à offrir à la société civile.
C'est ça. Mais quand tu prends le... Tiens, je pense à un ami, M. Garneau, Claude, il nous sort des affaires, des fois, on reste estomaqué. On dit comment ça? Il nous sort des affaires que le monde oublie de dire. Mais il nous a dit, lui, sur l'austérité, en septembre, on réfléchissait comment, pour perdre d'espoir vis-à-vis les politiques d'austérité. Mais Claude, il a pensé au suicide chez les jeunes, que les politiques d'austérité, ça fait des morts. Ben, il nous a sorti ça, puis on était 30, il n'y a personne qui a pensé à dire ça.
La pauvreté, évidemment, et n'a pas seulement ça, mais il y a aussi le climat qui tue, le dérèglement climatique tue, il bouleverse des centaines de millions de vies, à commencer par celles des plus pauvres et des plus fragiles, pour que notre planète reste vivable. Près de 80% des réserves d'énergie fossile actuellement connues doivent demeurer inexploitées. Je cite le dernier opus que j'ai reçu aux éditions du Seuil, « Crime climatique, stop l'appel de la société civile », où on cite Noémie Klein, Vandana Shiva, Jean Chouzel. Desmond Tutu fait la préface. Donc, je vous recommande ce livre qui devrait sortir prochainement dans les librairies au Québec. Merci beaucoup, Christian Loupret, Yves Carrier. C'est rafraîchissant d'entendre des exemples comme ça.
N'oubliez pas le 3 septembre à la place de l'université à 18h, une marche pour soutenir le communautaire.
Communautaireengrève.com.
Et puis, on s'en va prendre une disco soupe, là, en face de l'église Saint-Roch. Au parvis d'église, vous êtes invité à avoir une bonne soupe gratuite faite avec des légumes moches.
Merci.
Merci.
KRL.QC.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.
My God, on est rendu loin.
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui...
Prendre soin de soi, prendre soin du monde, c'est le thème du colloque sur lequel se pencheront une quinzaine d'intervenants experts en sepsis volontaire et en écologie. Méditation matinale, conférence de médecins sur la santé globale, 9 ateliers de formation, un café découverte et une table ronde avec 4 simplistères connus. Portez votre regard vers une autre direction, vers un autre mode de vie. Avec moins, c'est assez. Samedi 31 octobre, dimanche 1er novembre, au Pavillon des Jardins à l'Université Laval, réservé sur le site lepointdevente.com.
La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Découvrez l'impro BD lors de notre prochain match, le dimanche 11 novembre 20h, au Cercle. 228 rue Saint-Joseph-Est, entrée 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com.
Des trouvailles et des inventions à la façon de l'inventaire, présentées par Manu.
Parmi nos trouvailles, le portefeuille Mighty Wallet fait en Tyvek, mince comme du papier, mais solide, durable et surtout avec des designs vraiment cool.
What?
Et parmi nos inventions, le Sky Planter, la jardinière renversée néo-zélandaise qui défie la gravité et qui offre un design vraiment funky.
Boutique L'Inventaire, rue Saint-Joseph-Est. Boutiquel'inventaire.com, 418-614-2584.
Bref, on vend ces choses originales.
Capitaine!